Bonjour à toutes et à tous. En tout cas, ça me réjouit pour nous et notre famille de pouvoir vous retrouver. C'est vrai que pour ceux qui ne le savent pas, avant d'être pasteur à Pantin, j'ai été ici en stage pastoral avec les frères et sœurs que vous voyez ici pendant un an. Et vraiment, je me réjouis de pouvoir revenir, en tout cas partager ce temps d'adoration pour pouvoir louer ensemble notre Dieu et notre Seigneur. Et comme vous le savez peut-être ce matin, votre pasteur est venu chez nous, dans notre église à Pantin, et en fait, on fait un échange de chair, comme on dit. Donc voilà, c'est pour aussi créer des liens au sein de notre alliance et pour pouvoir aussi vivre la communion fraternelle. Et donc, vous avez aussi les salutations de notre assemblée, l'église de Pantin. Et avant qu'on puisse tout simplement se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, je vous invite à la prière. Oui, notre Dieu, notre Père, quelle joie, quel privilège tu nous fais de pouvoir venir librement dans ce lieu pour pouvoir te prier, pour pouvoir te contempler, pour pouvoir nous réunir entre frères et sœurs. Et Seigneur, vraiment que nous puissions mesurer ce privilège. Car tant de frères et sœurs dans le monde sont tellement persécutés. Et Seigneur, nous voulons vraiment nous mettre à l'écoute de ton esprit. Et Seigneur, on a besoin justement que ton esprit renouvelle en nous nos pensées, notre intelligence, afin que nous puissions aligner notre pensée, notre vision comme toi, tu le désires. Et Père, tout ceci, nous te le demandons humblement dans le nom de Jésus. Amen. Et donc, si vous avez votre Bible, je vous invite à l'ouvrir dans Matthieu au chapitre 6. Et on lira à partir du verset 7 jusqu'au verset 15. L'évangile de Matthieu au chapitre 6, les versets 7 à 15. Vous pourrez également suivre sur la slide. Je lis dans la version dite du semeur. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Qui n'a jamais entendu la prière du Notre Père ? Cette prière, elle est tellement connue qu'on a tendance à la réciter par cœur, un peu comme Jean 3,16. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on la connaît tellement par cœur qu'en fait, on la récite facilement. Et j'aime bien ce qu'a dit un grand théologien, professeur renommé, Henri Blocher, dans un commentaire sur le Sermon sur la montagne. Et voici ce qu'il dit. À trop connaître, à trop s'imaginer connaître, on risque fort d'ignorer. Et c'est vrai, je le confesse pour moi premièrement. Parfois, on connaît tellement bien un passage, on peut même le réciter par cœur, mais comment cela se traduit, se manifeste finalement dans ma manière de vivre? Et j'aimerais nous encourager, nous éclairer ce matin sur cette prière parce qu'elle nous oriente vers ce qui est essentiel dans notre vie en tant que chrétien. Et avant d'entrer en profondeur notre passage, je rappelle brièvement le contexte. Matthieu structure son évangile autour de 5 grands discours. Donc peut-être vous voyez assez bien. Et notre passage se trouve dans le Sermon sur la montagne. Et c'est sans nul doute le plus connu de Jésus. Et dans les 10 premiers versets du chapitre 6, Jésus va faire mention de 3 éléments essentiels de la pratique religieuse juive. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a l'aumône, la prière et le jeûne. Et un des enseignements que Jésus veut que les gens retiennent, c'est que ces 3 pratiques, l'aumône, la prière et le jeûne, doivent se faire avec des motivations pures. On a beau savoir prier avec éloquence, de donner, mais est-ce que ces choses-là, nous le faisons parce que nous voulons que les gens nous remarquent, nous voulons donner une bonne image de nous-mêmes, ou est-ce que nous le faisons vraiment avec un cœur sincère? Et ce qui m'a frappé dans ces 18 premiers versets et qui a attiré mon attention, c'est le fait, en fait, que Jésus s'arrête plus longuement sur la prière. Il leur donne un exemple concret de comment prier, ce que les disciples, les fidèles, devaient exprimer dans leurs demandes. Et en fait, Jésus, il aurait bien pu le faire avec l'aumône et le jeûne, mais il se concentre sur la prière. Et ce détail, en fait, il devrait nous mettre en alerte sur l'importance de la prière. Et vous savez, les disciples, ils ont vu Jésus à l'œuvre dans beaucoup de domaines. Guérir des malades, chasser des démons, marcher sur l'eau, prêcher à des foules immenses, ressusciter des morts. Mais la seule chose que les disciples ont demandé à Jésus de leur enseigner, c'est la prière. Waouh, est-ce qu'on se rend compte de ça? Malgré tous les exploits, toutes les choses extraordinaires, la seule chose qu'ils demandent, c'est « Jésus, apprends-nous à prier ». Et j'imagine que ça devait vraiment être beau et impressionnant de voir le maître prier. Et les amis, aujourd'hui, on bénéficie de cet enseignement si précieux que le maître a donné. Et voyons plus en profondeur comment Jésus les enseigne. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Et comme on l'a vu précédemment, ce que reproche Jésus, c'est que certaines personnes, par leur attitude, voulaient en fait montrer une bonne image d'eux. Ils voulaient que les regards finalement soient tournés vers eux, qu'on fasse leur éloge. Ils étaient en mode, m'as-tu vu? M'as-tu vu? Tu m'as vu là? Comment je prie? Comment je donne l'offrande? Et ce que le maître désire, c'est que les gens agissent avec des motivations pures. C'est bien de venir à l'église, de mener la chorale, de présider le culte, de prêcher, d'accueillir les gens dans la joie, de servir à la sono, d'être responsable du groupe de jeunes, dans le comité. Mais quelles sont nos motivations? Qu'est-ce qui nous motive à faire tout ce que nous faisons? Est-ce pour nous-mêmes, pour notre image, pour notre renommée, pour que les gens disent « Ah, lui, c'est un vrai. Elle, c'est une vraie. » Ou bien est-ce que c'est par amour pour le Seigneur? Parce qu'on a compris tout l'amour qu'il a manifesté envers nous par l'œuvre de Jésus à la croix. Rappelez-vous les paroles de Jésus lorsqu'il a repris les pharisiens et les spécialistes de la loi. « Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qui me rend n'a aucune valeur. » Les amis, veillons sur notre cœur, nos intentions, nos motivations. Ce qui doit nous pousser à faire tout ce que nous faisons, c'est l'amour que nous portons à Dieu et à notre prochain. Vous savez, aimer, ça contient deux éléments. Et ces deux éléments-là, ils sont indissociables. Ils sont comme les deux facettes d'une même pièce. Et donc, aimer, ça contient une action et une motivation. Je donne un exemple. J'ai beau dire à ma femme, je l'aime, je t'aime chérie. Mais si, en fait, elle ne le voit pas concrètement dans mes actes, en fait, c'est vide. Et j'ai beau lui montrer que je l'aime en action, mais est-ce que je le fais parce que je veux me débarrasser d'elle? Par exemple, je m'occupe des enfants juste parce qu'en fait, je veux regarder mon match de foot. Vous voyez? Est-ce que je veux, voilà, j'aime mon frère Francis, mais est-ce que c'est vraiment une motivation pure ou juste parce que plus tard, j'ai dit, je vais faire un déménagement. Francis, tu vois, hein, je t'aime, hein, tu t'as vu quand j'étais là, etc. Est-ce qu'on le fait vraiment avec une intention pure? Et vous voyez, ces deux éléments-là, ils sont indissociables. Une motivation et une action. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a des personnes mal intentionnées qui peuvent faire croire aux gens qu'ils les aiment. Mais sachez qu'on ne peut pas tromper Dieu. On peut porter un masque devant les gens, mais Dieu nous voit tels que nous sommes. On a beau savoir formuler de belles prières, prononcer de belles paroles, être éloquent, Dieu n'écoutera pas nos prières si nos cœurs ne sont pas droits, nos motivations ne sont pas pures. Et Jésus nous demande de ne pas imiter les païens qui rabâchent des tas de paroles. Et la raison pour laquelle le maître il dit ça, c'est parce que justement, le Père sait ce dont nous avons besoin avant même qu'on lui le demande. Et est-ce que Jésus il est en train de dire qu'il ne faut pas faire des prières longues ou courtes ou qu'il n'y ait finalement pas besoin de prier? Et la preuve, c'est que juste après avoir dit ça, il leur donne un modèle. Je vous donne un exemple. Je crois qu'à un moment de ma vie, j'avais mal compris cette parole. Je me levais, je disais, Seigneur, oh tu sais, amen. Je dormais le soir, Seigneur, tu sais, hein, amen. Mais heureusement, le Seigneur, il m'a vite repris sur ça. Et donc, je crois que l'intention de Jésus, ce n'est pas que nous prions juste des prières courtes ou qu'il n'y ait pas besoin de prier. Et la preuve, juste après avoir dit ça, bah, il leur donne le modèle de prière. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Et on voit que dès le début, Jésus présente cette prière comme une prière communautaire. Lorsqu'il commence déjà par notre Père, Jésus utilise également le pronom nous. Là, on le voit au verset 11, 12 et 13. Donne-nous, pardonne-nous, ne nous induis pas. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier cette prière en étant seul. Mais Jésus voulait que les disciples prient également en communauté. Son désir, c'est que les croyants puissent, à travers la prière communautaire, finalement se soutenir dans la foi. Est-ce qu'on a pris conscience que Jésus, dans cette prière, nous invite finalement à prier les uns avec les autres? Car c'est un moyen pour qu'on puisse finalement se soutenir dans notre foi, dans notre marche avec le Seigneur. Et vous savez, les temps de prière en communauté, comme vous les faites bah, les dimanches après-midi, le soir, en semaine, dans les groupes maison, etc., ce n'est pas juste une activité. Mais c'est un temps, frères et sœurs, où on peut être solidaires les uns des autres, porter les fardeaux des uns et des autres, être témoin de ce que Dieu a accordé aux uns et aux autres, exprimer notre reconnaissance à Dieu bah, pour les frères et les sœurs. Et Jésus enseigne qu'on adresse nos prières à Dieu le Père, la première personne de la Trinité. Jésus, en fait, est venu sur terre pour rétablir la relation avec le Père qui a été brisée par le péché. Et il faut savoir qu'à l'époque, dans le judaïsme, on ne s'adressait pas à Dieu en l'appelant Père. En fait, c'est quelque chose de nouveau que Jésus, en fait, leur propose. On a ce magnifique privilège d'appeler Père, le Créateur du ciel et de la terre, le Tout-Puissant. Est-ce qu'on se rend compte de ça? On bénéficie d'une relation intime avec le Dieu de l'univers. Et Jésus nous invite à nous adresser à Dieu comme à notre Père, à vivre une relation semblable à celle d'un enfant avec son Père. Après, je suis bien conscient que tous les pères humains ne sont pas parfaits. Et du coup, on peut avoir du mal à voir Jésus comme un Père, parce que notre Père terrestre n'est pas ou n'était pas bienveillant envers nous. Et justement, un frère, un jour à l'IBN, en fait, a témoigné qu'à cause de sa mauvaise relation avec son père, bah, il avait du mal finalement à voir Dieu comme un père, à l'appeler père bah, dans ses prières, parce que sa relation, elle était difficile. Mais même si nous n'avons pas ou nous n'avons pas eu un père parfait, nous avons tous un idéal du père parfait. La preuve, c'est quand on voyait notre père faire des choses peut-être pas très bonnes, on se dit quand je serai père, je vais pas faire ça, je vais éviter de faire ça. On a tous un idéal du père parfait. Eh bien, Dieu, lui, il l'est véritablement. Il est plein de bonté, de tendresse, de compassion, d'affection. Il est rempli d'amour pour ses enfants. Et il désire ce qu'il a de meilleur pour nous. Et il sait ce dont nous avons le plus besoin. Alors, les amis, n'hésitons pas à lui adresser nos prières. Et plus loin dans le passage, Jésus dira « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Et parfois, on demande des choses à Dieu et on ne les obtient pas. Et on peut être frustré, mécontent, en colère. Pourquoi je n'arrive pas à valider mes examens, à trouver un emploi? Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à trouver une personne avec qui je partageais ma vie? Seigneur, pourquoi cette personne, elle ne veut pas me pardonner? Etc. Mais rappelons-nous, Dieu est bon. Il maîtrise toutes choses et il sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Un père ne répond pas toujours positivement à la demande de ses enfants parce que ce n'est pas ce dont ils ont réellement besoin. Ou peut-être ce n'est pas encore le bon timing. Et sachez aussi que par vos prières, Dieu peut vous donner au-delà même de votre espérance. Sachez que Dieu peut vous donner au-delà même de votre espérance. Et je disais récemment à une sœur en Christ dans notre église qui passe par une période compliquée au sein de sa famille que Dieu seul peut changer les cœurs, changer les mentalités. Même si sa foi elle est petite, nous avons un grand Dieu. Même si sa foi est petite, nous avons un grand Dieu et on peut compter sur lui. Il peut agir. Alors faisons-lui confiance. Vous savez, Dieu n'est jamais en retard. C'est nous qui sommes trop pressés. Dieu n'est jamais en retard. C'est nous qui sommes trop pressés. Le timing de Dieu est parfait. Ensuite, qu'est-ce que ça signifie ? Que ton nom soit sanctifié. Et la semeur, elle a dit que tu sois reconnu pour Dieu. Ou par exemple, à la seconde 21, que la sainteté de ton nom soit respectée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le mot nom désigne la personne entière de Dieu. Le mot sanctifié vient de la même racine que le mot saint. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, sanctifier Dieu, c'est reconnaître Dieu comme saint et se comporter en conséquence de cela. Lorsqu'on prie cette parole, c'est pour exprimer notre plus profond respect à Dieu. On veut honorer, élever, magnifier Dieu. Par sa sainteté, il est digne qu'on l'adore, qu'on le vénère, qu'on lui rende un culte. Et c'est ce qu'on fait ce matin ensemble. Frères et sœurs, mesurons nos paroles. Parce qu'on ne peut pas dire avec légèreté que ton nom soit sanctifié, qu'on reconnaisse que Dieu soit saint, qu'on lui adresse tout notre profond respect, alors que dans la vie de tous les jours, on ne marche pas dans la sainteté. On n'obéit pas à sa parole. Dieu n'occupe pas la première place dans notre vie. Au contraire, on se laisse entraîner par le péché. Et l'apôtre Pierre nous encourage à mener une vie sainte. Dans sa première lettre au chapitre 1, voici ce qu'il dit. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saint dans tout votre comportement. Car voici ce que dit l'Écriture, soyez saint car je suis saint. Et donc, réfléchissons lorsqu'on prononce de telles paroles. Notre vie est-elle en accord, finalement avec ce que nous disons ? Ça vaut également pour la suite, que ton règne vienne. Le message central de Jésus concerne le règne, le royaume de Dieu. Et qui dit royaume, dit roi. Et Jésus est le roi qui vient régner. Est-ce qu'on veut vraiment que Jésus règne dans notre vie ? Pas celui de mon frère et ma sœur, non. Est-ce que Jésus veut régner dans ma vie, à moi ? Est-ce qu'on désire vraiment nous soumettre à sa parole, à son autorité ? Dans tout ce qu'on fait dans notre quotidien, Jésus occupe-t-il la première place ? Dans nos choix, nos décisions, nos orientations, nos actions. Et vous savez, c'est toujours plus facile de voir Jésus comme notre sauveur. Oui, merci Jésus, merci parce que tu m'as sauvé de mes péchés. Mais voir Jésus comme notre Seigneur, c'est plus difficile. Lorsqu'il nous demande d'obéir à sa parole, de rechercher d'abord son royaume et sa justice, là c'est compliqué. Hein. Personnellement, pour voir Jésus comme mon Seigneur, en fait je garde cette image. Je suis un soldat. Je me dois d'obéir à mon général qui est Christ. Lorsqu'il me donne un ordre, je me dois d'obéir. Non pas par peur, mais par respect, parce que c'est mon supérieur. Et Jésus est bien plus que mon supérieur. Il est celui qui m'a créé et celui finalement qui maintient mon souffle de vie. Alors, je me dois de vivre pour lui. Les amis, est-ce qu'on veut que Jésus règne dans notre vie, dans l'église de Saint-Maur ? Continuons. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ça rejoint ce qu'on vient de voir avec le règne de Dieu. Est-ce qu'on veut aussi accomplir la volonté de Dieu ? Mais qu'est-ce que la volonté de Dieu finalement ? Eh bien, la volonté de Dieu, elle s'exprime notamment dans la loi de Dieu et dans la totalité de sa parole. Nous savons ce que Dieu veut lorsqu'on ouvre notre Bible. Et Dieu a une volonté dans toutes les sphères de notre vie, pour tout ce que nous vivons. Est-ce qu'on cherche à plaire à Dieu dans toutes les manières, dans toute notre manière de vivre ? Le choix des études, du travail, des activités, d'un futur époux, épouse, la manière dont je traite mes parents, mes enfants, mes amis, mes voisins, mes camarades, la façon dont je gère mon temps, mon argent, mes biens matériels, etc. est-ce que dans tout cela, je cherche à faire ce que Dieu veut? Et il n'y a pas de secret si nous désirons accomplir la volonté de Dieu. On a besoin de se soumettre à sa parole. Il nous faut lire, méditer, creuser la parole, prier, laisser l'esprit nous renouveler. Et comme Paul le dit en Romains 12, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Pour savoir si c'est la volonté de Dieu, après avoir médité la parole et prié, et aussi, on se doit de mettre des actions en place. J'ai beau prier le Père que j'aimerais être médecin, mais si je n'entame aucune démarche, que je fournisse peu d'efforts, que je n'exerce pas d'une certaine manière la discipline, comment savoir si c'est réellement la volonté de Dieu pour moi? Et finalement, ça vaut pour tous les domaines. Bien sûr, tant que ça ne va pas à l'encontre de ce que la parole enseigne. Prier que la volonté de Dieu soit faite demande aussi que nous puissions faire preuve parfois de sacrifice. Le monde corrompu dans lequel nous vivons nous pousse à vivre comme on l'entend. Réaliser tous nos rêves. Donne-toi à fond et ça ira. Vis ta vie. Tu n'as qu'une seule vie, profite. Mais est-ce que nos projets sont les projets que Dieu a prévus pour nous? Est-ce que nos projets sont les projets que Dieu a prévus pour nous? Tu rêves de devenir peut-être joueur professionnel dans telle discipline, de vivre sous les cocotiers, sous une belle plage, de devenir millionnaire et pouvoir acheter finalement tout ce que tu veux, libre financièrement. Quand je veux acheter quelque chose, je ne regarde pas le prix, je veux juste, je prends ce que je veux. Et à un moment de ma vie, j'étais vraiment passionné par le foot. Je rêvais d'être footballeur professionnel. Je jouais à un certain niveau quand j'étais plus jeune, mais en grandissant, Dieu en a prévu autrement. Et parfois, ça nous fait mal quand on se dit « Ah, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela, j'aurais pu être ceci, cela. » Mais ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. Faisons confiance à Dieu. Car comme je l'ai dit, il est souverain et il sait finalement ce qu'il y a de meilleur pour ses enfants. Et les amis, dans les trois premières demandes, Jésus tourne nos regards vers Dieu. Son nom, son règne, sa volonté. Lorsqu'on prie, on vient d'abord à Dieu pour ce qu'il est, lui. On lui témoigne tout notre profond respect. On va rechercher ses intérêts, on va aussi se préoccuper de ses affaires. On veut qu'il soit à la première place, on veut que Jésus règne dans notre vie, qu'on accomplisse sa volonté. Car par nature, vous savez comme moi, par nature, on a tendance à se centrer sur nous-mêmes, à nous préoccuper d'abord de nos besoins, de notre bien-être. Ensuite, vient dans cette prière trois demandes en notre faveur. Et Jésus nous apprend à exprimer nos besoins personnels au Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. La demande, elle est simple et pourtant, elle est profonde. Et j'aime bien les deux remarques qu'un commentateur a soulevé. Et je vous les livre, c'est tellement beau, je trouve, ce qu'il a dit. Premièrement, le fait de ne pas demander d'avance sur la nourriture, c'est se confier au Père Céleste. C'est lui faire confiance pour chaque jour. Et deuxièmement, en demandant chaque jour notre pain, eh bien cela nous apprend à rester dépendant du Père. Waouh! Dieu a mis vraiment de l'intelligence à des personnes pour qu'ils trouvent, juste en cette phrase. Le fait de ne pas demander d'avance sur la nourriture, c'est se confier au Père Céleste, c'est lui faire confiance pour chaque jour. Et deuxièmement, en demandant chaque jour notre pain, eh bien cela nous apprend à rester dépendant du Père. On observe aussi dans cette demande, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, que les biens terrestres sont très limités, ni réussite, ni richesse, mais l'équilibre, comme l'exprime un proverbe au chapitre 30, ne me donne ni richesse, ni pauvreté, mais seulement ce dont j'ai besoin pour vivre. Même si Dieu sait déjà ce dont nous avons besoin, il est bon pour nous de les lui demander. Pensons encore à la relation parent-enfant. Même si les parents savent ce dont ils ont besoin, ils attendent que les enfants leur expriment. Parce qu'il y a une relation. le fait que l'enfant demande, que les parents répondent, eh bien, en fait, ça crée des liens, ça crée en fait des complicités. Je sais très bien parfois ce que Mélodie elle veut, mais j'attends qu'elle me le demande. Parce que voilà, ça crée un lien, des affinités, on peut discuter, on peut échanger. Il y a une vraie relation là qui s'installe. Et Dieu veut même dans nos petits détails qu'on lui adresse toutes nos demandes. Les amis, Dieu s'intéresse à nous. Cela lui plaît de nous entendre, bah lui parler, de nous exprimer tous nos besoins, comme je l'ai dit, même dans les détails. Nous apprenons à développer notre relation avec lui. Et c'est également bénéfique pour notre bien-être, finalement, de pouvoir tout lui exposer. Pensons à des choses qui nous sont arrivées et qui nous ont mis un peu le cœur lourd, qu'on avait un peu le cœur lourd. Eh bien, le fait d'en parler à un ami, de pouvoir lui dire, ça nous a fait un bien fou. Le fait de pouvoir discuter à une personne en toute transparence, ça nous a fait du bien. Et Dieu se plaît à nous entendre. Ensuite, lisons le verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Quand j'étais à l'IBN, un jour, une de mes camarades de promo nous a témoigné à un moment qu'elle n'arrivait pas à prier cette prière du Notre Père. Elle n'arrivait pas. Parce que justement, c'est ce verset 12 qu'elle n'arrivait pas à mettre en pratique. Tant qu'elle n'avait pas pardonné à une personne à cause de ce qu'elle avait subi, elle n'était pas en mesure de prononcer cette prière. Et moi, perso, en fait, je trouvais ça touchant. Parce qu'on a tendance, et moi le premier, hein, comme je l'ai dit, à réciter cette prière, finalement, sans peser tous les mots. Sans réellement, finalement, s'examiner. Et ma camarade, elle a seulement pu prier cette prière quand elle a fait le pas du pardon. Elle a été, en fait, libérée de ce fardeau qui pesait en elle. Les amis, gardons-nous encore de l'amertume, de la rancœur, de la colère, des sentiments mauvais contre une ou des personnes. Sachons qu'on peut le cacher aux gens, mais Dieu regarde au cœur et il sait. Et si on veut être libéré de ce fardeau, de ce poids qui pèse en nous et qui finalement nous détruit intérieurement, demandons l'aide de Dieu, qu'il nous donne la force et le courage de pardonner. Qu'on puisse regarder au pardon que Dieu nous a accordé en Christ. Si on se dit disciple de Christ, si on dit qu'on aime Christ, eh bien, obéissons. Et voici ce qu'il dit au verset 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Bien sûr, Dieu ne nous pardonne pas parce qu'on a pardonné ou qu'on pardonne à quelqu'un. Il nous a pardonné uniquement par l'œuvre que son Fils a accomplie. Mais si nous avons compris ce pardon qui a coûté si cher, la mort sur une croix pour nos péchés, eh bien cela doit nous pousser à pouvoir pardonner les torts bien moins coûteux que ce qu'on nous a causé. C'est pouvoir exprimer à la personne qui nous a fait du mal qu'on lui pardonne, qu'on est prêt à réparer nos torts dans la mesure du possible, qu'on lui souhaite du bien, souhaiter du bien à la personne et qu'on fasse un pas pour renouer cette relation. Enfin, au verset 13, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » En priant ainsi, on reconnaît notre faiblesse face à la tentation. On n'est pas des super chrétiens qui se disent « T'inquiète, je gère face aux tentations, je gère, je sais résister. » On est tous, d'une manière ou d'une autre, exposés à la tentation et on risque fort tous de tomber. On a besoin, les amis, de l'aide de Dieu pour pouvoir résister. Jésus dit à ses disciples, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Chaque jour, on a grandement besoin de demander à l'Esprit de renouveler nos pensées, car on vit dans une société où on est très vite exposé à des choses malsaines. Des affiches publicitaires où on voit des femmes, des hommes trop dénudés. On peut tomber trop rapidement sur des vidéos un peu trop sexy sur les réseaux sociaux. Ça va tellement vite. Les séries de nos jours où le péché, il est clairement exposé. Clairement exposé, le péché. Vivons dans la débauche. Et on doit faire attention à nos fréquentations. Si les gens avec qui nous traînons, nous marchons, nous attirent vers des choses malsaines, bah faisons attention aussi à ça. Frères et sœurs, vraiment, ne pensons pas que nous sommes forts. Vraiment, ne pensons pas que nous sommes forts. Et comme je l'ai dit quotidiennement, demandons l'aide de l'Esprit. Qu'il change notre cœur. Qu'il dirige nos pensées vers finalement ce que Dieu désire. Rappelons-nous que Christ a vaincu le péché et que Satan n'a plus d'emprise sur nous. Gardons cette promesse que Paul nous laisse en 1 Corinthiens chapitre 10. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Accrochons-nous à cette promesse lorsque viennent les tentations. Dieu nous donne les moyens d'avoir la victoire. Et pour conclure, Jésus nous apprend dans cette prière les éléments essentiels. On peut la prier telle qu'elle pour s'en servir, voilà, pour formuler des prières personnelles. On peut aussi la prier ensemble, en communauté. Ensemble, les amis, en église, quand vous avez un temps de prière ensemble, prions cette prière en mesurant les paroles. On sait comment mieux diriger nos prières. Et les amis, cette prière, elle est là pour cultiver une relation riche, belle et profonde avec notre Père. Et des six demandes qu'on a vues, quelle est là ou les demandes où tu as le plus besoin de progresser? La première, reconnaître Dieu comme saint et te comporter en conséquence de cela. Voir Jésus comme ton Seigneur et le laisser régner en toi. Rechercher ce que Dieu veut que tu fasses pour lui. Faire confiance et dépendre du Père au quotidien. Pardonner à quelqu'un. Reconnaître ses faiblesses et demander l'assistance du Saint-Esprit chaque jour. Frères et sœurs de Saint-Maur, je vous rassure, on a tous besoin de progresser dans ce que notre Maître Jésus nous enseigne dans cette prière. Mais peut-être qu'en ce moment, il y a un ou deux sujets qui te font le plus, qui me font le plus défaut. Et demandons à Dieu, demandons au Père que par son Esprit, il nous aide à véritablement comprendre les paroles que nous prions. Et non seulement les comprendre, mais que ça puisse vraiment impacter notre manière de vivre. Et cette semaine, je vous lance ce défi de revenir sur cette prière, de continuer à méditer dessus. Avec finalement tout ce qu'on a vu aujourd'hui, revenons méditer dessus. Qu'est-ce que Dieu veut que je change? Vers quoi Dieu m'oriente? Et aussi les amis, avec cette intention de vraiment mettre en pratique. Comme je dis, on entend beaucoup de choses chaque dimanche, mais qu'est-ce que nous en faisons? Même si c'est des petites choses, mais que nous obéissons à ce que notre Maître demande. Je vous invite à la prière. Oui, notre Dieu, notre Père, comme tu nous l'enseignes, que nous puissions rester focalisés d'abord, Seigneur, sur toi. Que dans notre manière de vivre, nous puissions te refléter. Que nous ayons ce désir de vouloir marcher dans la sainteté, Seigneur. Seigneur, nous prononçons tellement de belles paroles, mais Seigneur, apprends-nous à les mettre en pratique dans notre vie. Comme je l'ai dit, Seigneur, les gens voient peut-être quelque chose en nous, mais Seigneur, toi, tu sais ce qu'il y a au plus profond de notre être. On peut paraître devant les gens comme de bonnes personnes, Seigneur, mais toi, tu sais au fond de nous, Seigneur. Aide-nous à pouvoir marcher dans la sainteté. Aide-nous à pouvoir te rechercher, à te mettre en priorité dans notre vie, Seigneur, que nous puissions accomplir ta volonté. Seigneur, s'il y a de la rancune, s'il y a de la rancœur, s'il y a de l'amertume en nous encore contre une ou des personnes, que tu puisses nous donner la force de pouvoir faire ce pas du pardon, Seigneur. Aide-nous à enlever ce poids qui nous détruit intérieurement, Seigneur. aide-nous à pouvoir faire ce pas-là, Seigneur. Donne-nous la force et le courage, Seigneur, que nous puissions toujours regarder à ce que Jésus a accompli. Aide-nous, Seigneur, tous les jours, parce que tu vois dans le monde, tu vois le monde dans lequel nous sommes, tellement exposés à la tentation. Aide-nous à renouveler nos pensées, à toujours nous aligner sur ce que toi tu veux, Seigneur. Et Père, tout ceci, eh bien, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen.